PAFI. Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une date dans l'histoire avec un grand H, le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un vote à Paris dans l'enceinte du Palais de Chaillot. L'article 25 de cette déclaration stipule que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celle de sa famille en matière notamment d'alimentation et de soins médicaux. Un document fondateur qui aujourd'hui nous pousse à nous interroger sur la place du droit à la santé, 70 ans exactement après ce vote par les 58 États qui, alors que la Seconde Guerre mondiale venait de s'achever 3 ans plus tôt, avaient fixé des lignes, posé des balises pour atteindre un idéal commun, prônant l'éducation, le respect des droits et des libertés. Ce droit à la santé qui nous intéresse aujourd'hui, il convient d'abord de le définir. Il implique la mise à disposition de ressources nécessaires dans un contexte pacifié si possible, mais aussi l'accès de tous et de toutes à des traitements qui ne mettent pas leur vie en danger, leur santé en danger, rendant disponible aussi l'information avec en toile de fond la lutte contre les discriminations. Un droit à la santé qui, dans de nombreuses régions du monde, à l'instar des droits de la personne, se conjugue au futur quand ce n'est pas un conditionnel des plus hypothétiques, voire des plus improbables. Droit à la santé, souvent réduit au statut de promesse, mais des personnes, des institutions s'attellent à lui donner corps, à progresser étape par étape, des constats, des critiques, débats que l'on engage avec nos invités en plateau. Docteur Ronnie Broman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, directeur d'études à la Fondation Médecins Sans Frontières, donc enseignant également. Et avec nous, professeur Philippe Cornet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, professeur de médecine générale à Paris-Sorbonne. Nous joindrons tout à l'heure à Dakar le docteur Joseph Mendy, vice-président, secrétaire général de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Et puis bien sûr, on attend vos témoignages pour connaître la situation chez vous en matière de droit à la santé, d'accès aux soins. Le numéro de téléphone de l'émission 33 84 22 75 75. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète.
Priorité santé sur RFI.
Date historique, donc Déclaration universelle des droits de l'homme, un vote et une adoption il y a 70 ans tout juste. Et ce 10 décembre 1948, c'est René Cassin, juriste, résistant de la première heure et opposant acharné au régime de Pétain, qui était à la tribune.
Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles et plus particulièrement pendant et entre les deux guerres.
René Cassin, 20 ans plus tard, en 68, il est récompensé du prix Nobel de la paix. Déclaration donc universelle, précédée d'un préambule qui pose l'égalité des droits comme fondement, la liberté, justice, paix mondiale, 30 articles. Le 25e, celui dont on parle pendant cette émission Priorité Santé, est justement dédié à la santé, plus largement même à la dignité sociale, les deux forcément sont liés, avoir ce niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être. Est-ce que l'on doit parler, Ronnie Broman, du droit à la santé comme d'un objectif ou comme d'un idéal ?
Or, c'est plus un idéal, et ça l'est d'autant plus que cette formulation droit à la santé est elle-même ambiguë. Quand vous et moi, n'importe qui, parlons de santé, on parle de sa santé individuelle, c'est-à-dire d'une sensation de bien-être, d'un corps silencieux, c'est-à-dire un corps qui ne se rappelle pas à vous. Et ça, c'est un état, ça n'est pas un droit. On l'est ou on ne l'est pas, ou on peut tomber malade. Donc, on peut tout aussi bien parler d'un droit à la santé que d'un droit à la maladie. Et personnellement, je suis assez enclin à promouvoir un droit à la maladie, c'est-à-dire à la capacité reconnue par la société de pouvoir tomber malade, d'avoir un recours et de s'en relever, ce qui signifie un environnement social favorable à cela, c'est-à-dire vous n'êtes pas en permanence tenu d'accomplir des performances, vous pouvez à certains moments être faible, ne pas pouvoir assumer vos tâches, et à ce moment-là être pris en charge par la solidarité pour revenir ensuite dans le cycle du travail, de la production, bref, de la vie ordinaire. Donc ce droit à la maladie, il devrait être, disons, le contre-type, ou en tout cas le complément d'un droit à la santé, me semble-t-il.
Alors, est-ce qu'on peut avoir cette définition personnelle ? Je me tourne vers vous, hein, professeur Philippe Cornet. Quel sens, vous, personnellement, vous donnez à cette expression « droit à la santé » ?
Alors, je rejoins René Breman sur cette petite torsion autour du droit à la santé dans sa définition, en ce sens qu'effectivement, il y a une perception déjà individuelle. Si toutefois, les conditions sociales, économiques, de sécurité personnelle, etc., sont réunies pour définir pour soi-même ce qui est bon pour soi. Et alors, ce qui est bon en soi n'est pas nécessairement bon pour soi et réciproquement. Donc, j'y reviendrai. Donc, la question du droit à la maladie, c'est en quelque sorte, je voudrais rebondir là-dessus, c'est la question de le droit, la plupart du temps, induit la notion de devoir. Et on voit bien dans un certain nombre de sociétés occidentales que tout ce qui est une préoccupation de santé va aussi être des injonctions à maintenir, à promouvoir, à être dans la prévention. Et on voit que là, il y a une disparité totale entre, j'ose la métaphore, les premiers de cordée, celles et ceux qui sont en capacité parce qu'ils ont l'accès à l'information, l'accès aux soins, l'accès à la culture, vont pouvoir être dans cette dynamique de prévention à propos de leur propre santé ou de la santé de leurs proches. À l'inverse, ce qui m'intéresse en tant que médecin, c'est les derniers de cordée. Les plus démunis, les plus défaillants, les plus en difficulté, socialement, économiquement, culturellement, mais aussi les plus discriminés pour leurs origines, pour le type d'ailleurs de maladie qu'ils peuvent avoir. Voilà. Donc il me semble que la somme des perceptions individuelles de la santé ne donne pas une perception générale santé publique, mais pour autant, en tant que médecin, je m'intéresse davantage, mais pas exclusivement, aux inégalités.
Définition donc du côté de l'OMS, hein, on regarde, oui. Organisation Mondiale de la Santé, qui explique donc, là elle vous rejoint, qu'il ne s'agit pas du droit d'être en bonne santé, mais plutôt de favoriser les politiques et plans d'action pour favoriser l'accès. On est au cœur du sujet, question évidemment sur la relation entre la précarité et l'accès aux soins, ce que vous venez d'évoquer, professeur Philippe Cornet, relation entre le développement économique, mais on va voir que c'est pas une condition qui suffit à elle-même, et puis l'investissement dans les infrastructures, les personnels, les produits de santé, là aussi avec des questions de sécurité, c'est bien d'avoir accès à des médicaments, encore faut-il que ce soit de bons médicaments. Et un sujet qui va nous intéresser, professeur Philippe Cornet, c'est donc un sujet qui concerne l'ensemble de la planète. C'est pas parce qu'on est dans un pays riche que cette égalité, elle est forcément acquise.
Dans notre pays, vous voulez dire ?
Par exemple.
Absolument, oui. Il y a de grandes disparités d'accès aux soins. Alors, ce que l'on constate, par exemple, dans les maladies cardiovasculaires, c'est un exemple assez simple, c'est que lorsque quelqu'un fait un accident aigu, à partir du moment où il arrive à l'hôpital, les disparités sont relativement lissées. À partir du moment où il arrive à l'hôpital. Et je dis bravo l'hôpital. Mais avant l'accident, il y a une énorme disparité autour des préoccupations du niveau de risque. Et on sait parfaitement que des gens qui sont dans les situations économiquement les plus faibles sont moins en capacité de prévenir cet accident.
Par exemple, la reconnaissance des premiers signes, des symptômes.
Par exemple, hein, c'est-à-dire je n'ai pas le niveau d'inquiétude, je n'ai pas non plus l'entre-gens pour immédiatement être alerté par un proche qui lui-même a la connaissance. Etc. Donc cette situation, je n'ai pas fait d'examen de dépistage, je n'ai pas d'attitude nécessairement préventive, faute d'informations ou de moyens, en particulier l'alimentation. Donc on voit bien que les conditions, le prérequis n'est pas du tout le même, et la disparité est très grande de ce point de vue. Elle ne l'est moins quand on est en soins aigus, par exemple, très clairement.
Là, on est en nécessité de soins. Maintenant, si on est dans la logique d'acceptation des soins, est-ce que pour vous, la notion de consentement, professeur Philippe Cornel, elle s'intègre aussi dans cette question du droit à la santé ?
De consentement par rapport à...
Si un médecin vous propose un traitement, votre capacité à avoir un regard critique par rapport à l'option qui vous est proposée, même si c'est pas forcément ce qu'attendent, ce qui est forcément obligatoire dans la relation entre le patient et le médecin, mais d'avoir en même temps une capacité de demande même d'explication.
Assurément, c'est la littératie en santé, c'est-à-dire il faut un minimum d'inquiétude pour solliciter un questionnement. Donc la responsabilité du médecin, c'est d'anticiper. Et en particulier, d'aller chercher les inquiétudes, les besoins, les choses, en disant, est-ce que vous avez une notion de, est-ce que vous savez ça sur cela, etc. C'est-à-dire qu'il y a une grande anticipation. L'équité, c'est ça, c'est de donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Donc moi, j'ai exercé 40 ans Belleville-Ménilmontant, donc j'avais une population qui était une population pas particulièrement aisée, même si une fraction de ma patientèle l'était. Mais globalement, c'était ce travail d'aller au contact des personnes, au niveau de leur culture, pour venir chercher le niveau de besoin et de compréhension. Donc, vous avez raison, il y a une grande disparité et l'attitude du médecin, elle est essentielle, essentielle.
Alors, Renie Broman, est-ce qu'on peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une vraie disparité entre ceux qui s'interrogent sur leurs droits, sur l'accès simplement à la santé, et d'autres qui s'interrogent sur le droit de devenir patient, qui n'ont pas justement cette capacité de devenir patient parce que la santé, elle n'est pas dans leur village, dans leur périmètre, voire même à 30 ou 40 kilomètres de chez eux?
Ah oui, la santé est les services de santé, les possibilités d'accès à des soins de santé sont un excellent analyseur des disparités sociales. Les exemples que nous citions tout à l'heure, ce que nous rappelait à l'instant le professeur Cornet, tout ça est très très éloquent, très évocateur. En effet, c'est un diffracteur de disparités, c'est-à-dire un analyseur de ces disparités qui est vraiment très très fidèle, très très précis. Une fois qu'on a dit cela, il s'agit de savoir peut-être, d'identifier les problèmes. Je voudrais faire une remarque sur ce que disait à l'instant le professeur Cornet. Je suis d'accord avec quasiment tout ce qui a été dit. J'aurais simplement un complément à faire concernant votre réponse. Enfin, disons l'égalité des conditions entre le patient et le médecin. Il y a toute une tendance qui s'est développée, disons, depuis les années 90, à faire de la relation entre patient et médecin une sorte de contrat entre parties égales, chacun important et chacun devant attendre de l'autre quelque chose, mais sur un niveau égal. Or, je pense qu'il est trompeur, il est illusoire de vouloir établir une égalité dans cette condition, y compris d'ailleurs quand le patient est lui-même un médecin. Un médecin peut
savoir
tomber malade.
Rester à sa place.
Et un médecin peut tomber malade, il va voir un autre médecin, il va voir un confrère spécialisé, ou bref, il a besoin de se faire soigner, et il n'est pas dans une relation égale, en dépit du savoir médical qu'il maîtrise, qu'il possède.
Mais c'est peut-être justement une limite à poser à ce droit, à cette exigence de droit. Est-ce qu'on ne dépasse pas nos prérogatives, y compris parfois, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais en tant que patient, de dire, oui, mais vous pensez ça, est-ce que ce ne serait pas mieux, est-ce que cette option thérapeutique, c'est la bonne? Finalement, on va glaner des informations un peu n'importe où, on arrive en croyant savoir alors qu'on ne sait pas.
Mais tout est dans les nuances à ce moment-là. On n'est pas dans le tout ou rien. On sait, parce qu'on l'a expérimenté dans de nombreux, c'est-à-dire c'est vérifié empiriquement et scientifiquement, qu'un patient qui participe mieux à son traitement sera surtout un patient chronique, sera plus observant, sera plus fort et a de meilleures chances de s'équilibrer, disons, dans la pathologie. Donc il y a des effets thérapeutiques à une bonne explication, à une bonne adhésion au traitement, à une bonne compréhension des raisons de celui-ci. Donc il ne faut pas non plus jeter cela par-dessus bord. Mais c'est l'égalité, c'est disons la relation contractuel entre le patient et le médecin, qui pour moi relève de l'idéologie néolibérale, disons, appelons les choses par leur...
Un rapport quasiment de consommateur.
Un rapport de
consommateur.
Comment
certains aussi avec l'école, qui arrivent en disant, moi je serais mieux élevé que vous, c'est moi qui sais, quoi.
C'est ça, voilà, donc il y a ça. Et d'ailleurs, de l'autre, sur un autre versant, disons, des tendances néolibérales dont toutes nos sociétés sont... qui saisissent toute notre société. Il y a aussi la question, vous en parliez tout à l'heure de façon rapide, des médicaments, les bons médicaments ou les mauvais médicaments. Aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, et c'est là aussi une tendance qui est installée depuis maintenant une trentaine d'années, donc c'est assez récent, ça nous rappelle qu'on peut faire autrement, puisque pendant longtemps on a fait autrement, ce sont les compagnies privées, les compagnies pharmaceutiques privées qui maîtrisent l'ensemble du processus de production des médicaments, depuis la mise au point de la molécule qui va servir de principe thérapeutique, jusqu'à la publication dans des revues scientifiques des résultats, des essais cliniques qui sont menés avec ces molécules. Donc on a un système dans lequel, et pour, c'est pas n'importe quoi, la production de médicaments, où les producteurs sont eux-mêmes les juges de leur propre production. Ça, c'est extrêmement malsain, et d'une part, ça entraîne toutes sortes de conséquences. Il faudrait toute une émission pour les
détailler. On en a déjà parlé, mais il y a de quoi faire encore.
Ah oui, parce que c'est absolument primordial, c'est quelque chose de fondamental. Le médicament n'est pas toute la médecine, mais il en est tout de même une partie importante. Or là, nous sommes dans un système qui est totalement défaillant. Et d'ailleurs, c'est même jusqu'à, par exemple en Europe, jusqu'à la pharmacovigilance, c'est-à-dire la surveillance à long terme des effets des médicaments qui est placée entre les mains des producteurs. C'est quand même totalement, c'est totalement délirant. C'est pas stupide, c'est très intéressant pour les compagnies pharmaceutiques. C'est très fâcheux pour tous les patients potentiels que nous sommes. Alors voilà une autre dimension aussi de cette espèce de dérive idéologique dans laquelle se trouvent inscrites, disons, les pratiques médicales et ce que, disons, aujourd'hui nous discutons sous le terme de droit à la santé.
Alors on va illustrer, si vous voulez bien, certains constats. Tout à l'heure, on a dit en milieu rural, souvent en Afrique subsaharienne ou dans d'autres régions du monde, difficulté d'accès à un traitement ou à des soins dignes de ce nom. Justement, il y a deux mois, là, on est en ville, en métropole, à Abidjan, on a diffusé un reportage réalisé dans deux maternités de la métropole ivoirienne. Donc Abidjan, Charlie Dupiot, s'était notamment rendu à l'hôpital de Cocody. Hein. C'est un grand hôpital d'Abidjan où elle avait visité en compagnie du docteur Salomon Deza, médecin au service de gynécologie obstétrique. Ce service, les naissances, les mamans en attente, en plein travail, c'était donc au sein de ce CHU de Cocody.
Ici, c'est la salle de mise en observation. Ce que vous voyez déjà, vous voyez que les lits, par exemple, il n'y a pas de drap dessus. Et puis c'est une salle, comme vous sentez la chaleur. C'est une salle où la climatisation ne marche pas très bien. Je veux dire, une femme qui a accouché, il faut la surveiller. Il y a des éléments de surveillance, il y a des scopes qu'il faut avoir, il y a de l'oxygène qu'il faut avoir, on n'a pas tout ça. Donc ça, ce n'est que des échantillons de difficultés, mais il y en a plusieurs. Vous savez que Yopougon, où il y a un CHU, il est en restructuration. Le service de gynécologie de Trècheville, il est en restructuration, même fermé. Et donc, nous recevons les femmes à la fois d'Abidjan Sud, donc qui viennent de Trècheville et autres, les femmes de Yopougon, et même des autres maternités hors d'Abidjan.
Et ça arrive qu'il n'y ait pas assez de lits?
Ah oui, c'est pourquoi on dit aujourd'hui que, bon, vous êtes venus, hein, bonjour, sinon on est obligé de trouver des formules. Et il y a des fois où des femmes se retrouvent sur la terre, sur des matelas. Ce qui est idéal, c'est que quand une femme arrive, il faut que dans les 5 minutes de son arrivée, elle soit vue par un médecin. Mais c'est déjà une difficulté. Vous voyez, 4 femmes qu'on n'a pas encore pu examiner parce qu'on n'a pas de place. Il n'y a qu'un bloc opératoire qui est fonctionnel pour le service de gynécologie. Un seul bloc. On a les dames qui sont là pour la plupart, c'est des électives qu'on doit opérer. 6 électives à faire.
Électives, ça veut dire ?
C'est-à-dire que c'est des femmes qui ne sont pas en travail, chez qui on a posé une indication de césarienne, de cessation fœtale. Soit l'enfant en siège, soit en transversal, soit il est... Il y a une présentation dystocie qui fait que bon, il faut l'opérer forcément. Mais c'est des femmes qu'on doit opérer, mais on a un seul bloc. On est obligé d'attendre.
Et vous avez combien d'anesthésistes alors pour le service ?
Alors, le service n'a pas d'anesthésiste. C'est une unité à part, on a recours à eux quand on pose une indication. Donc là aussi, il faut qu'ils se libèrent avant qu'on ne puisse aller opérer. Mais le temps que le bloc se libère, c'est un problème. Le temps que l'anesthésie même arrive, c'est un problème. Le temps d'acquérir tous les médicaments, le kit complet, c'est un problème. Toujours au niveau du matériel, en obstétrique, lorsque la tête s'engage, que la femme peut accoucher, la tête s'engage, que l'enfant ne sort pas rapidement, dans les 15 minutes, vous pouvez le perdre. Donc il faut être actif pour le faire sortir. Et là, on a besoin des instruments qui permettent de faire des extractions instrumentales. La ventouse et le forceps. On sait les utiliser, mais on ne les a pas.
Il n'y en a pas assez ou il n'y en a pas ?
Il n'y en a pas du tout.
Extrait du reportage de Charlie Dupiot, maternité de Cocody à l'hôpital au CHU pas de forceps, pas d'oxygène. C'est pas un centre de santé isolé en brousse, c'est un hôpital public, sous équipement évident. Comment voulez réagir, Ronny Broman?
Ah, je trouve que ce reportage est très évocateur d'une évolution que l'on a constaté au cours de ces, disons, 30 à 50 dernières années. Moi, j'ai commencé à exercer en Afrique il y a un peu plus de 40 ans. Je n'ai pas exercé tout le temps en Afrique, loin de là, mais enfin, j'ai vu les évolutions. Et c'est très bien illustré par ça. C'est-à-dire, on a de plus en plus de compétences.
On entend le potentiel absolu, voilà, hein, ça, c'est sûr.
Il y a une évolution silencieuse à laquelle il faut prêter attention, qui est la formation de cadres de santé, disons, d'infirmiers, de médecins, de chirurgiens. Alors que quand j'ai commencé personnellement en Afrique, il y en avait vraiment très très peu. On pouvait se retrouver seul médecin pour une région de 100 000 habitants, comme ça a été mon cas la première fois que j'ai travaillé au Bénin en 76. Depuis lors, ce genre de situation ne peut pratiquement plus se reproduire. Mais cette augmentation des compétences, cette formation de cadres de santé qui sont capables de prendre en charge les soins de santé, s'accompagne d'une pénurie matérielle considérable, révoltante, avec des budgets de santé qui, pour certains, même diminuent d'année en année. On a de nombreux pays dans lesquels, sur le moyen terme, ces budgets ont été diminués de 50, 60, 70% au profit d'autres budgets militaires, policiers, bref, comme disait l'autre, le bras droit de l'État contre le bras gauche. Hein, le bras gauche étant le bras social et le bras droit le bras répressif. Eh bien, ça, c'est, je crois, ce que illustre très bien ce reportage. On sent chez ce chef de service de gynéco une compétence évidente dans la manière dont il décrit les problèmes et la misère matérielle dans laquelle il est plongé et qui a évidemment des conséquences graves parce que aujourd'hui la médecine repose sur la mise en œuvre de moyens matériels relativement importants et pour bien exercer votre métier, vous devez disposer de ces moyens-là, d'investigation, de traitement, etc.
Et on voilà, peut dire aussi, ça, justement, parce qu'on est dans une maternité, que ces indicateurs de santé maternelle, c'est vraiment le reflet de la qualité des soins et aussi de la situation du pays en matière d'accès des droits à la santé. Plus les mères meurent en couche, plus les bébés meurent tôt dans leur vie, plus c'est vraiment le signe cru qu'il y a vraiment des choses à faire.
Ça nous dit l'essentiel de la situation sanitaire du pays.
Professeur Philippe Cornet, est-ce que vous vouliez également réagir à la
question
de cette illustration?
Oui, réagir, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec Ronny Broman sur son analyse. J'ai moins de compétences que lui, j'ai moins voyagé. Il y a comme une espèce de situation paradoxale. C'est-à-dire que je me trouvais il y a quelques jours dans un débat, une conférence, autour de l'hospitalité à l'hôpital. En France, la question de l'hospitalité, c'est-à-dire comment on accueille les personnes malades et un décentrage de la maladie vers la personne. Je dis c'est une problématique de riches, clairement. C'est-à-dire que, et en plus c'est paradoxal parce que là on voit la pénurie et effectivement cet abîme entre les compétences du personnel médical et paramédical, et la mise en jeu, et les moyens. Et nous avons énormément de moyens mis en jeu dans l'hôpital. Il y a quelque chose comme une espèce même d'envahissement de la technologie médicale aux dépens de la personne malade, d'une certaine façon. Et nous en sommes à nous interroger sur la réintroduction de l'humanité dans l'hôpital. Donc on voit là une espèce de paradoxe absolu entre la situation de notre collègue là dans sa maternité et ce qu'on peut constater dans nos hôpitaux. Certes, où il faut encore des moyens, etc., mais on voit les niveaux d'interrogation ne sont pas les mêmes. En même temps, je voulais souligner que j'entendais aussi, en disant il n'y a pas de drap, je pensais à la question de l'hospitalité, de toute façon, à tous les niveaux. C'est-à-dire que cette nouvelle attitude des médecins, des soignants en général, de réfléchir à être hospitalier dans l'accueil des personnes en situation de maladie.
Mais et même y compris en le formulant aux patients, en disant on est désolé, on n'a pas
désolé,
ça,
voilà,
si on avait
absolument,
pu, on
voilà,
vous aurait mieux
c'est
accueilli.
Ça, c'est
important.
C'est
de
très
l'entendre.
Important. C'est-à-dire que même faute de moyens, on doit pouvoir le dire et dire qu'ils ont toute leur place à hauteur de ce qu'on peut faire pour eux. Mais malheureusement, le constat est accablant par rapport à...
René Broumann, vous l'avez évoqué tout à l'heure assez rapidement, justement la réduction des budgets, des parts budgétaires consenties justement sur cette question prioritaire de la santé dans des programmes politiques. Pourtant, c'est pas faute de promesses hein, lors des campagnes électorales. On promet couverture santé universelle, on promet ouverture de grands hôpitaux, on promet parfois même des projets de construction d'hôpitaux pharaoniques avec des moyens financiers qui viennent de l'étranger. Malgré tout ça, est-ce que c'est pour se faire élire ou est-ce que derrière, on a encore des politiques qui y croient et qui investissent dans la santé pour une meilleure santé, y compris dans des économies en développement?
Bon, toutes les généralités sont évidemment fausses. Attends, il y a toujours des exceptions. Mais je me lance quand même dans une réponse à votre question. Oui, je dirais que dans l'ensemble, ce sont des promesses électorales, ce sont des mots qui sont jetés à la volée et dont l'efficacité est tout de même vérifiable, enfin vérifiée en tout cas, parce que la question de la peur de la maladie est une question universelle. Les êtres humains sont conscients d'une possible projection dans le futur, ils sont dotés d'imagination, et donc tous, autant que nous sommes, nous savons que nous pouvons tomber malades, nous savons que nous sommes vulnérables, et donc susceptible d'être défaillant, voire d'être menacé par des problèmes gravissimes. Et c'est peut-être ce qui fait d'ailleurs notre humanité, ce sentiment de vulnérabilité. Et donc la peur de la maladie, qui fait partie de ce sentiment de vulnérabilité, elle est universellement partagée. Donc évidemment, elle est un ressort important pour les hommes politiques qui veulent se faire élire ou qui veulent s'acquérir une base sociale, un soutien. Mais une fois au pouvoir, on voit bien que les budgets de santé, comme je le rappelais tout à l'heure, ont plutôt tendance à diminuer ou à être divertis ou voire à être utilisés uniquement pour, par exemple, apporter un service à des élites urbaines au détriment d'un prolétariat urbain, ou en tout cas de couches populaires urbaines, et plus encore au détriment des couches sociales rurales qui n'ont aucun accès. Rappelons-nous que parmi les déterminants de la santé, les transports sont un facteur
Alors
important.
J'ai une illustration.
Route, exactement. La route et le téléphone sont des...
J'ai une illustration. On essaye de le joindre, on n'y arrivait pas. C'est un auditeur qui nous a appelé de Guinée, de la ville de Sigiri, deuxième ville de Guinée. Hein, c'est pas rien. C'est près du Mali. Saïdou, il nous dit, il y a un manque de personnel médical, d'accord, mais surtout il n'y a pas de route. Sigiri, pour rejoindre la première route bitumée, la première route goudronnée, 400 kilomètres de piste. Comment peut-on se faire soigner quand il n'y a pas, justement, pour une opération importante? Saïdou le dit, il avait une hernie, il a dû aller à Conakry pour se faire opérer, car à Sigiri, on me disait que ce n'était pas le moment. Et puis, autre illustration, là, c'était un auditeur qui nous appelait de Bukavu en RDC, et qui nous dit que garde un enfant qui avait une bronchite. Bukavu, impossible de le soigner. Ils ont dû voyager jusqu'à Bujumbura, jusqu'au Burundi, et la famille a mis un an pour rembourser les frais, pas forcément les frais de santé, mais comme beaucoup, dans beaucoup de circonstances en Afrique, pour aller accoucher, il faut payer, pour aller jusqu'à la maternité, il faut payer, et il n'y a pas que les frais de santé, il y a aussi tout ce frais du transport, on n'y pense pas souvent, pas toujours, mais c'est essentiel, René Broumann.
Oui, tout ça s'additionne, d'ailleurs, en parlant de Burundi, je me rappelle le cas de cette femme dont Médecins Sans Frontières avait fait un exemple de la situation au Burundi en particulier, mais dans bien qui valait pour d'autres pays également, une femme qui allait accoucher, qui a eu besoin d'une césarienne, et qui, ne pouvant pas payer sa césarienne, a été non pas opérée gratuitement, mais mise en prison, pour la raison qu'elle ne pouvait pas rembourser les frais déjà engagés. Donc on voit des situations totalement scandaleuses, révoltantes, et qui révoltent évidemment d'abord la population autour du centre de santé, qui est informée de cela, mais enfin des révoltes qui n'arrivent pas à aboutir, notamment à cause de l'autoritarisme, de la répression. Donc on voit qu'il y a un enchaînement de causes là où l'autoritarisme, la gestion antidémocratique de certains pays va directement à l'encontre des besoins de santé, des besoins de sécurité sanitaire, je pense qu'on peut aussi les appeler comme ça, de la population. Mais en parlant de Bukavu, me vient aussi l'évocation du prix Nobel de la paix qui vient d'être attribué, enfin qui est attribué aujourd'hui. Il a été attribué en octobre, mais la cérémonie a lieu aujourd'hui, qui récompense le docteur Mukwege pour qui est donc un chirurgien gynécologique qui opère les victimes de viol. Et je trouve un peu je suis un peu embarrassé par le discours qui entoure cette récompense qui est sans doute méritée par le docteur Mukwege, c'est pas ça que je remets en cause, mais si vous voulez, on a l'impression que d'une part il n'opère que des femmes violées. Et que d'autre part, le viol n'est qu'une question de guerre, que le viol est une arme de guerre, comme on aime le dire. Or là, il y a deux affirmations qui sont problématiques parce qu'elles cachent des réalités beaucoup plus massives. D'abord, le viol est d'abord un crime commis en temps de paix, et massivement en temps de paix. C'est 95% des viols de la planète sont commis en temps de paix. Et se focaliser sur la guerre, c'est en quelque sorte localiser, singulariser, spécifier de façon excessive ce crime qui est répandu dans toutes les situations et qui se produit dans toutes les situations. Et par ailleurs, et on en vient plus directement à notre sujet, on parle de ces femmes qui ont été mutilées, qui ont un appareil génital mutilé du fait de tortures sexuelles ou de viols. Ça arrive sans doute, mais la plupart des femmes qui sont opérées là, qui ont un appareil génital atteint, c'est du fait de grossesses non suivies ou de grossesses mal suivies, de grossesses dystociques qui n'ont pas été opérées correctement. Mais ça représente la masse la plus importante. Alors cette chirurgie gynécologique, elle est bienvenue, la chirurgie des fistules, la chirurgie de réparation, la chirurgie de reconstruction en général de l'appareil génital endommagé par des grossesses et des accouchements mal suivis. Mais tout reporté sur le viol, ça permet en quelque sorte d'ignorer, avec disons une posture morale avantageuse, d'ignorer la réalité de cette injustice et de cette violence sociale qui réside dans le fait de laisser à leur libre cours toute cette population sans lui offrir de recours. Et ça se passe à Bukavu, donc...
Oui, mais c'est dans le cadre du prix Nobel de la paix, c'est pas vous qui allez me contredire de dire qu'en situation de conflit, on est dans des situations parfois où ça donne encore un coup de projecteur supplémentaire à ce qui peut effectivement se passer en temps de paix, mais en tout cas, il y a une médecine différente et une approche différente également. En tout cas, ce prix au docteur Mukwege, c'est aussi que, même s'il a l'air depuis 10, 15, 20 ans, ça continue et ça ne change pas. Et l'interrogation des pouvoirs politiques par rapport à cette forme de laisser-faire et surtout de l'impunité en matière de justice.
C'est pas le prix Nobel qui va changer quoi que ce soit, de toute façon.
Mais c'est déjà au moins lui donner une visibilité qu'il avait déjà auparavant, mais au moins augmenter cette visibilité, c'est pas rien.
Oui, enfin, encore une fois, la question de la visibilité ne résout pas tout. La question est de savoir ce que l'on voit
bien sûr.
On rend quelque chose visible. Or, il me semble que ce que l'on montre cache la chose la plus importante. Et c'est cela que
c'est souvent ce qu'on veut montrer, de toute façon. Rodi Broban, professeur Philippe Cornet, vous restez avec nous. On va tout de suite partir pour Dakar.
Priorité santé sur RFI.
Dakar, où on vous retrouve, docteur Joseph Mendy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Tout à l'heure, on a entendu un reportage à Abidjan. On a aussi rapporté ces témoignages d'auditeurs de Guinée, de République démocratique du Congo, expériences différentes en fonction des pays. Et quant au Sénégal, chez vous au Sénégal, docteur Joseph Mendy, on parle de la couverture santé universelle et que l'on voit la réalité du terrain. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les programmes politiques et la réalité de cet accès aux soins?
Merci, Madame Paré, de m'avoir invité dans cette émission. Et avant de commencer, je salue au passage les collègues qui sont au plateau avec vous. En ce qui concerne la couverture maladie universelle au Sénégal, c'est réellement une réalité. Avant 2012, 20% des populations au Sénégal avaient accès aux services de santé, c'est-à-dire avaient disposé d'une couverture maladie universelle. Après 2012, l'État du Sénégal a initié un programme à travers l'Agence de la couverture maladie universelle, qui est l'extension de la politique de la couverture maladie universelle. Et de 2012 en 2018, on est passé du taux de couverture de 20% à peu près 49%, qui représente un effort considérable. Et à cela s'ajoute l'installation des structures de santé, le redéploiement du personnel les équipements et évidemment la formation de nouveaux personnels, des médecins, des infirmiers qui sont affectés dans les zones les plus reculées du Sénégal.
Docteur Joseph Mendy, est-ce que ça s'est ressenti en matière d'espérance de vie, en matière d'autres indicateurs, les maladies infantiles, etc. Est-ce que cet accès aux soins, vous le dites, amplifié avec des chiffres, avec des statistiques officielles, est-ce que la population en voit les effets directement de façon positive?
Effectivement, aujourd'hui, le programme le plus populaire, le plus apprécié des populations, c'est le programme de couverture maladie universelle. Et les dernières statistiques ont montré l'amélioration des éducations, les indicateurs en matière de santé, notamment la mortalité maternelle infantile qui a considérablement baissé au Sénégal. Dans le programme de couverture maladie universelle, il y a l'assurance maladie qui est développée à travers les mutuelles. Alors, je dois dire par rapport aux collègues qui tout à l'heure parlaient des mutuelles de santé. Au Sénégal, par contre, les mutuelles de santé sont développées essentiellement vers les couches défavorisées au niveau des couches rurales. Parce qu'au niveau des centres urbains, ils bénéficient de l'assistance maladie obligatoire, c'est-à-dire les personnes qui bénéficient d'un emploi et rémunérées de façon régulière ont déjà le couverture maladie universelle. Mais c'était l'écrasante majorité des couches rurales et des couches informelles qui n'avaient pas de couverture maladie universelle. Donc, l'État est en train de mettre en place des mutuelles de santé essentiellement dirigées envers des populations qui n'avaient pas auparavant une couverture maladie universelle.
Docteur Joseph Mendy, excusez-moi, docteur Joseph Mendy, on peut dire que malgré ce que vous nous dites, ce tableau très positif que vous dressez, il y a quand même encore de nombreuses places au Sénégal, de nombreux points reculés où l'accès aux soins mérite encore grandement d'être amélioré.
Ah, tout à fait. Je voulais dire seulement que malgré tout ce qu'on a fait, malgré tous les efforts que l'État du Sénégal est en train de déployer, il y a lieu de constater qu'il y a encore des efforts pour l'atteinte de la satisfaction complète des besoins de population en matière de santé. Si on analyse les statistiques du Sénégal par rapport aux normes et ratios de l'OMS, on se rend compte que le Sénégal, et d'ailleurs toute l'Afrique, on est encore en marge des normes qui ont été fixées par l'OMS. C'est-à-dire que le taux de couverture en matière de médecins, d'infirmiers par rapport à la population n'est pas encore atteint. Ça, on ne peut pas tergiverser dessus. Ce sont effectivement, ça peut entraîner des difficultés de prise en charge. Mais de façon globale, il y a quand même une amélioration de la situation.
Merci beaucoup. Merci, docteur Joseph Mendy. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Ordre national des médecins du Sénégal.
RFI à Saint-Louis, 99.7 FM.
On vous retrouve en studio, docteur Ronny Broman, professeur Philippe Corneille. Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, question clé, c'est la lutte contre la discrimination, avec notamment des arsenaux législatifs qui empêchent certaines populations d'accéder aux soins. Quand on parle de l'Afrique subsaharienne, on pense par exemple aux homosexuels, aux usagers de drogue, des personnes exclues en quelque sorte des systèmes de santé. Donc il faut des stratégies parallèles pour les atteindre pour certaines pathologies spécifiques ou pour certaines prises en charge. Est-ce que vous voulez réagir sur ce point, Ronny Broman, sur cette question des populations vulnérables parmi les vulnérables? On peut aussi citer, dans certaines régions du monde, tout simplement les jeunes filles, les femmes, même si la moitié de l'humanité, ça représente malgré tout des populations plus vulnérables que d'autres.
Oui, sans doute, mais j'ajouterais même à cela les disparités de classe, classe urbaine, classe rurale, mais aussi classe aisée, classe pauvre. Tout à l'heure, on parlait, le professeur Cornet parlait de la question de l'hospitalité à l'hôpital, question essentielle en effet, et j'ai en tête des études dont une a été publiée sous le titre de « Une médecine inhospitalière », une étude menée au Niger par le sociologue, anthropologue Jean-Pierre-Olivier de Sardan, étude dans laquelle on constate qu'une bonne partie des problèmes que rencontrent des patients à l'hôpital Ce sont des problèmes de corruption, de rejet, d'incivilité commise à leur encontre. Et par exemple, ça rejaillit. J'ai en tête une autre étude, alors cette fois-ci menée par Médecins Sans Frontières dans ses propres structures, enfin c'est les structures qu'elle partage avec le ministère de la Santé au Kenya, concernant des patients atteints par le VIH, des patients donc atteints du sida, qui abandonnaient le traitement, et on voulait savoir pourquoi. Près de 20% des patients abandonnaient un traitement alors même que ce traitement était très très efficace et était bien toléré. Eh bien, le résultat a été non pas des croyances obscures qui auraient éloigné les patients des lumières de la médecine, mais simplement des attitudes hostiles, inciviles, grossière, qui décourageait les patients de venir consulter parce que on les faisait attendre des heures, parce qu'on les faisait revenir, parce qu'on leur demandait des dessous de table pour avoir le droit à avoir un infirmier ou avoir une ordonnance et ainsi de suite. Donc ça, c'est un problème tout à fait fondamental. Alors la question que vous posiez sur par exemple le traitement d'une partie des femmes à l'hôpital ou d'homosexuels ou de personnes atteintes de certaines pathologies s'inscrit dans cette médecine inhospitalière et donc dans l'effort qui doit être fait du point de vue de la formation, des moyens.
Est-ce que vous disiez au début d'émission du droit d'être malade, simplement.
Voilà, du droit d'être malade, des possibilités de recours dont doivent disposer les patients pour pouvoir se plaindre à la direction de l'hôpital. Bref, tout un dispositif à la fois matériel et, je dirais, symbolique et social qui doit être au service des patients.
Ce sera la conclusion, professeur Philippe Cornet, je me tourne vers vous. Oui. Est-ce que cette vaste question, on l'a compris, ça mériterait plusieurs émissions, du droit à la santé, continue à se poser quand on est dans un contexte où les assurés sociaux sont protégés? C'est le cas pour la plupart des personnes qui résident en France, je dis bien qui résident avec des titres de séjour. Les frais de santé sont pris en charge. Est-ce que pour autant, il y a encore des chantiers en cours? Se pose particulièrement, il y a eu de nombreuses études à ce sujet, la question des populations migrantes, y compris dans des pays développés, y compris dans des pays qui ont des très bons systèmes de santé comme le nôtre.
Assurément, puisque ça repose essentiellement sur les représentations. Et la discrimination, ça pose la question des représentations. Et dans la maladie, déjà, vous voyez bien qu'il y a des maladies qui sont subies. Voilà, on n'a pas... Et des maladies que l'on considère comme... dont on porterait la responsabilité. Donc le VIH, toxicomanie, les problèmes d'alcool, l'obésité,
un certain nombre de maladies mentales.
Certaines maladies mentales. Donc la première question, c'est déjà faire évoluer pour les soignants, oui, la question des représentations. Et ça, je pense que c'est le travail de la faculté et de former les soignants autour de l'analyse de leurs propres représentations et des discriminations. Après, on voit qu'on se heurte à des contextes moraux, des valeurs, des conflits de valeurs. Voilà. Donc je pense que, en tant qu'enseignant, je dirais qu'il faut investir massivement sur les humanités médicales et de les réintroduire dans les études médicales pour lutter contre ces représentations discriminantes.
Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission consacrée au droit à la santé. On l'a compris, droit aussi à une santé plus humaine. Merci à vous, Ronnie Broman, médecin directeur d'études à la Fondation Médecins Sans Frontières, enseignant, et à vous, professeur Philippe Cornet, professeur de médecine générale à Paris-Sorbonne. On parle alimentation et nutrition tout de suite dans Priorité Santé. On vous retrouve Stéphane Besançon. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Aujourd'hui, on va parler d'une céréale ancestrale, le fonio. Alors, par le passé, vous nous avez déjà parlé, Stéphane, du mil, du sorgho. Aujourd'hui, gros plan sur le fonio.
Alors, le fonio, c'est une plante herbacée, une toute petite plante qui mesure 80 cm et qui ressemble un peu à une mauvaise herbe. Et c'est une céréale qui est cultivée principalement au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Sénégal. Et contrairement à beaucoup d'autres céréales, elle a une particularité que les gens qui ont l'habitude d'en manger connaissent, c'est qu'elle a un grain qui est minuscule, qui est tout petit, qui fait 1,5 mm. Pour vous donner une idée, il faut pratiquement 2000 grains pour faire un gramme de céréales. Donc c'est vraiment minuscule. Et c'est cette petite graine qui, une fois qu'elle va être décortiquée, va être consommée soit complète si elle n'est pas blanchie, soit blanchie, ça va être en couscous, ça peut être en pâte, sous forme de pâte, ou alors un plat qui est quand même beaucoup apprécié en Afrique de l'Ouest, qui est mélangé à de l'arachide, qui va s'appeler le djouga.
Alors, est-ce que le fonio, cette céréale, a une composition intéressante pour la santé?
Alors, si on regarde la composition globale, on se rend compte que, comme un peu toutes les céréales, elle a à peu près 92% de glucides, c'est-à-dire d'amidon. Donc là-dessus, on est sur quelque chose d'assez classique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'elle contient un petit peu moins de sucre simple que d'autres céréales, à peu près 10 fois moins que le riz et 30 à 40 fois moins que le sorgho ou le mil, et elle contient beaucoup plus de fibres. Alors, ça reste quand même des quantités faibles de fibres, hein, il faut relativiser, mais par rapport aux autres céréales, elle en contient 7 fois plus à peu près que le riz, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, pour les gens qui ont des intolérances, par exemple, c'est que le fonio ne contient pas de gluten.
Donc ça veut dire, pour les personnes qui ont la maladie cœliaque, il est possible de consommer du fonio.
Tout à fait.
Alors, est-ce que cette céréale a d'autres caractéristiques intéressantes?
Alors, il y a une légende, qui dit que le fonio, c'est l'aliment un peu antidiabétique pour les diabétiques. Il est très consommé dans les pays par les patients. Très clairement, il faut le dire, hein, le fonio n'est pas un antidiabétique, ça n'a pas de, c'est pas un médicament et ça n'a pas des propriétés miracles sur le diabète. Par contre, c'est vrai que si on le compare à d'autres céréales, à qualité nutritionnelle égale, il a quelques avantages. Alors, ce que je disais précédemment, c'est-à-dire c'est une quantité de sucre simple un petit peu plus faible, donc ça c'est quand même intéressant. Et il a aussi un index glycémique, c'est-à-dire la capacité d'élever le sucre dans le sang, qui est un petit peu plus faible que d'autres céréales, que le riz ou que le sorgho ou que le fonio. Mais il faut toujours tempérer, parce que d'un autre côté, c'est une céréale qui coûte un petit peu plus cher, voire même beaucoup plus cher, parce qu'il peut être des fois, suivant les périodes, deux fois plus cher que le riz, par exemple, au kilo. Ce qui veut dire que souvent les patients peuvent se priver financièrement pour absolument acheter du fonio, et c'est pas forcément une bonne chose, que la plus-value nutritionnelle n'est pas colossale.
Alors, un dernier conseil, hein, Stéphane Besançon, pour les auditeurs.
Alors, quand on parle de céréales à chaque fois, on conseille, le premier conseil, c'est de pas être dans la monotonie, c'est-à-dire de pas consommer qu'une seule céréale, que du riz ou que du fonio. C'est vraiment d'intervertir les céréales pour changer un peu les protéines, pour qu'il y ait vraiment une diversité au niveau des céréales. Il faut bien rappeler aussi que les céréales, c'est pas à volonté, hein. C'est-à-dire que dans une ration à peu près, c'est à peu près 50% de l'apport calorique, soit à peu près 300 grammes par jour. Donc là aussi, manger des céréales, mais pas non plus en excès. Et il faut bien rappeler à chaque fois à nos auditeurs que la composition de la sauce est très importante aussi, hein. Donc de rester là aussi sur des quantités de gras, de sel qui sont raisonnables. Et comme je l'ai dit précédemment, bien se rappeler que c'est pas un antidiabétique, ça c'est quand même vraiment important. Et la dernière chose, effectivement, pour des gens qui ont une intolérance au gluten, eh ben, c'est un substitut très intéressant pour ne pas avoir de problème d'intolérance qu'on peut avoir avec du blé, par exemple.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. À bientôt dans Priorité Santé. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Keïla Soulessiar et Didier Bleu aujourd'hui. Demain, nous parlerons des problèmes digestifs du transit. Si vous avez des questions, on attend bien sûr vos appels, témoignages, questions. Notre numéro, c'est le 33 1 84 22 75 75. Et vous pouvez bien sûr laisser vos messages sur notre page Facebook. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre